VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. En RDC, quelques 251 personnes, dont 60 enfants, ont été victimes d'exécutions sauvages entre mars et juin dans la région du Kasaï, dans le centre du pays. Des violences perpétrées par des agents de l'État, des milices ou des rebelles, selon un rapport de l'ONU publié ce vendredi à Genève. Le bilan a été dressé par une équipe d'enquêteurs du Haut Commissariat de droits de l'homme de l'ONU sur les massacres ethniques dans la région du Kasaï, souligne un communiqué de cette agence onusienne. Au Rwanda, de longues files d'attente se sont formées ce vendredi dès l'ouverture des bureaux de vote pour une élection présidentielle que le président sortant Paul Kagame aborde avec une totale confiance. Paul Kagame, 59 ans, arrivé au pouvoir après le génocide de 1994 et président depuis l'an 2000, a stabilisé le pays grâce à une croissance économique rapide. Mais ses opposants jugent que ce développement économique s'est fait au détriment des libertés civiles. Et ils affirment qu'un climat de peur s'est installé avant le vote de ce vendredi. Notre envoyé spécial sur place, Charlie Kasereka, est à Kigali. Son compte rendu.
Élection sans enjeu. Depuis très longtemps, le président sortant Paul Kagame prépare le terrain. Aujourd'hui, il est rassuré du renouvellement de son mandat pour les 7 prochaines années. Tout d'abord, il a pris le soin d'empêcher plusieurs conquérants d'État de se présenter pour les élections de 2010. Puis, récemment, c'est la candidate Diane Rigwara, rentrée récemment au pays pour cette élection, malheureusement disqualifiée par la Commission électorale nationale. Il fallait réussir à recueillir 600 parrainages des citoyens. La commission est à la seule à juger de la validité d'un parrainage, tout revient à l'avantage du chairman Paul Kagame. Autre chose à signaler, les partis au pouvoir s'est accaparé des médias publics, avec aussi la quasi-totalité des institutions du pays gérées par les partisans du Front patriotique rwandais depuis plus de 2 décennies. Néanmoins, le seul enjeu pour cette élection serait tout simplement la comparaison des pourcentages avec lesquels sera élu ou réélu le président par rapport aux 2 échéances passées de 2003 et de 2010 où Paul Kagame l'avait remporté successivement avec 95 et 93% des voix. Charlie Kasereka depuis Kigali pour VOA Afrique.
Au Kenya, quelques jours des élections générales du 8 août, des milliers de Kenyans quittent les villes, soit par peur des violences, soit pour aller voter dans leur village d'origine. Les détails avec Abdourahman Dia.
Je vais aller dans mon village et je compte y rester jusqu'à la proclamation des résultats. Nous nous sentons plus en sécurité chez nous. Les propos de cet employé d'une imprimerie de Nairobi qui amène toute sa famille avec lui traduisent l'état d'esprit dans la capitale kényane à 5 jours du scrutin. Des milliers de personnes ont envahi les gares routières à destination des villages. Certains y vont pour voter, mais beaucoup avouent leur crainte de violence post-électorale comme celle de 2007-2008. Des scènes de départ en masse sont également notées à Mombasa, la grande ville côtière du sud. Le gouvernement reconnaît que beaucoup de Kenyans ont peur, mais assure que plus de 150 000 membres des forces de sécurité seront déployés. L'opposition soupçonne le pouvoir de vouloir tricher, une accusation rejetée par la coalition gouvernementale. 8 candidats sont en lice pour l'élection présidentielle, dont les plus en vue sont le président sortant Uhuru Kenyatta et son rival de toujours, Raila Odinga.
Élection en Mauritanie. Les Mauritaniens se rendent aux urnes demain samedi pour un référendum constitutionnel controversé prévoyant notamment la suppression du Sénat. Un scrutin organisé dans un climat de tension dû notamment à l'appel au boycott lancé par l'opposition radicale. La campagne émaillée de violence s'est achevée jeudi avec un ultime meeting du chef de l'État. Le président Mohamedou Abdel Aziz a accusé de prévarication les sénateurs opposés à la révision de la Constitution. Quelques 1 400 000 Mauritaniens sont appelés aux urnes de 7h à 19h temps universel demain, les résultats étant attendus en début de semaine prochaine. Les législatives au Sénégal maintenant, la coalition présidentielle a été proclamée victorieuse à Dakar après 3 jours d'attente et une interminable guerre des chiffres. À Dakar, l'opposition fidèle au maire de la capitale, Khalifa Sall, conteste les chiffres et accuse le pouvoir de hold-up électoral. Les partisans de Khalifa Sall annoncent une bataille devant les hautes juridictions sénégalaises. On écoute Moussa Taï, conseiller politique du maire de Dakar.
Naturellement, la coalition Mankota au Sénégal réfute ces résultats-là. Nous ne le reconnaissons pas parce que nous pensons qu'ils sont truqués. C'est une fraude de la coalition Bernabok-Yakar. et nous allons utiliser toutes les voies de recours possibles. Non seulement nous allons attaquer la décision au niveau de la Cour d'appel, et même demain au niveau du Conseil constitutionnel, mais également politiquement, nous prendrons toutes nos dispositions pour nous opposer à cette forfaiture.
Moussa Taye, conseiller politique du maire de Dakar au Sénégal.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Congo-Brazzaville, de grande détresse des patients du centre hospitalier universitaire de la capitale. De nombreux patients sont sans assistance médicale et pour cause, les agents sont en grève illimitée avec un service minimum. Le personnel de l'hôpital réclame 3 mois de salaire impayé et des avantages sociaux. Selon les syndicats, aucune suite n'a été donnée jusqu'à présent à leur demande. La correspondance de Nguela Ngoussou à Brazzaville.
Ce triste spectacle peut devenir le quotidien au CHU de Brazzaville si on y prend garde. Les malades, eux, ne savent plus à quel saint se vouer. Cette femme explique en lingala que les malades décèdent dans la nuit faute d'assistance médicale. Arrivé sur un fauteuil roulant, un autre malade est venu enlever le plâtre de son pied, mais personne pour le recevoir. Il est tout triste sur le perron de l'hôpital.
Je suis perdu. Désespéré parce que je dois reprendre le boulot lundi prochain et on ne sait pas quand est-ce que va finir leur grève. On attend. Je suis pris en otage, carrément. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut. On m'a dit d'attendre carrément la fin de la grève. C'est vraiment malheureux.
Le responsable syndical des médecins du CHU, Dr Albert Ngatse Oko, revient sur les revendications des travailleurs.
Non, rien d'autre que le salaire. Je crois que le pays connaît certainement des difficultés au niveau des finances, si bien que les travailleurs ont déjà un certain nombre de mois sans être payés et ça fait quand même coincé. C'est pour cela qu'ils sont excités, énervés. Essayer de maintenir sans pouvoir le contenir. Évidemment, on est arrivé à la date butoir.
Sur les 3 mois de salaire dus, les agents sont prêts à en accepter 2 avant de reprendre le service. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Cameroun voisin, les citoyens se mobilisent pour soutenir l'effort de guerre contre Boko Haram en donnant leur sang en faveur de nombreux soldats blessés. Mais selon les responsables de la santé, les banques de sang continuent de connaître des pénuries. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka rendu par Lionel Gaïma.
Des centaines de personnes sont rassemblées dans la cour de la communauté urbaine de Yaoundé. Elles veulent donner du sang pour les soldats blessés dans les combats contre Boko Haram. Anatole Bihinam, 50 ans, attend de subir un test pour déterminer s'il peut être donneur.
Nous le devons beaucoup de respect et beaucoup d'encouragement parce que nous voyons ça à travers la télé ou bien d'autres documentaires faits, mais nous voyons bien que ces gars-là sont dans un front vraiment front. Je ne connais pas si je suis un bon donneur ou un mauvais donneur parce que je crois qu'il y a des tests qui se font et qu'on voit le bon ou le mauvais sang. Mais si il arrivait qu'on trouve que moi j'ai du bon sang et que je peux donner, donc ça je n'hésiterai pas pour donner un petit goût de sang à celui qui sauve des vies. Mais écoutez.
Le Cameroun a déployé 3000 soldats à sa frontière nord avec le Nigeria dans le cadre de la force multinationale pour combattre Boko Haram. 1 millier d'autres soldats positionnés le long de la frontière avec la République centrafricaine ont pour mission d'empêcher les incursions des rebelles centrafricains. Depuis le début de son offensive, il y a 2 ans, la force régionale a délogé Boko Haram de beaucoup de zones, mais les raids des djihadistes et des attentats suicides ont continué. D'après les responsables de santé, des centaines de blessés, dont plusieurs soldats, sont morts en partie à cause du manque de sang, les besoins étant estimés à 200 000 litres chaque année. Pour le docteur Biwole Sida du centre hospitalier de Yaoundé, donner du sang aide, mais ce n'est pas suffisant.
S'agissant des hépatites virales au Cameroun, nous avons des prévalences qui varient entre 10% et 13%, notamment pour l'hépatite B et l'hépatite C.
Parmi ceux qui veulent contribuer à combler le gap, Zanele Makina, une Sud-Africaine qui a pu mobiliser 200 donneurs de sang rien que cette semaine.
It's amazing. It's very good.
C'est remarquable, c'est très bien. Nous ne nous attendions pas à autant de mobilisation des Camerounais, mais dès que les gens ont vu notre installation pour recueillir du sang, même les petits vendeurs du marché ont répondu à nos appels au mégaphone. Ils sont venus se proposer pour donner du sang.
Dans un communiqué, l'armée camerounaise a chaleureusement remercié la communauté sud-africaine pour cette belle initiative. Le président Paul Biya encourage les citoyens à soutenir les soldats. Le gouvernement de Yaoundé dit avoir reçu de la population de grandes quantités de produits alimentaires et jusqu'ici des fonds de l'ordre de 6 millions de dollars en aide à l'armée ces 2 dernières années.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.